Europe 1. Bienvenue au cœur de l'histoire. Je suis Virginie Giraud. À l'occasion du couronnement de Charles III, je vous propose une série spéciale de 4 portraits de souverains qui ont marqué l'Angleterre et dont les actions ont encore des conséquences sur la couronne aujourd'hui. Après Guillaume le Conquérant, je vous propose de nous plonger dans l'intimité d'Henri VIII, ce souverain cruel avec ses épouses. Si cruel qu'il aurait inspiré le personnage de Barbe Bleue à Charles Perrault. Mais ces changements matrimoniaux ne sont pas que des caprices. Ils servaient de grands projets politiques. Épisode 2. Henri VIII, ses femmes et le pape. Nous sommes à la Tour de Londres le 19 mai 1536. C'est le matin. Anne Boleyn s'agenouille sur l'échafaud. La reine d'Angleterre déchue vient, comme le veut la tradition, de pardonner à son bourreau qui va lui trancher la tête avec son épée. Ses dames d'honneur lui enlèvent sa coiffe et lui bandent les yeux. Elle se met à prier. Selon le gouverneur de la Tour de Londres, Anne Boleyn fait preuve d'un sang-froid admirable. Elle va mourir pour que Henri VIII puisse épouser sa nouvelle toquade, la ravissante Jane Seymour. Mais ce serait mal comprendre la complexité des jeux de pouvoir que de se limiter à cette explication. Anne Boleyn va mourir parce qu'elle est au cœur des jeux de pouvoir des puissants du royaume. C'est à cause, ou grâce à elle, qu'Henri VIII va rompre avec Rome pour fonder l'Église anglicane. Henri VIII rencontre Anne Boleyn à la cour en 1522. Il a immédiatement un coup de cœur pour cette jeune femme qui maîtrise à la perfection l'art de la séduction. Il a déjà 31 ans. C'est un grand roux au physique imposant. Mais même s'il est roi, il ne peut pas épouser cette femme qui le rend fou. Pour bien comprendre la situation, revenons un peu en arrière. Henri a reçu une éducation très soignée, mais il n'était pas censé régner. Quand son frère aîné Arthur meurt prématurément à 15 ans, il devient le nouvel héritier. Son père, Henri VII, l'a immédiatement fiancé à la veuve d'Arthur, Catherine d'Aragon. C'est une mesure nécessaire pour conserver des liens diplomatiques forts avec l'Espagne. Le pape Jules II a même accordé une dispense spéciale à cette union, parce qu'en général, chez les chrétiens, on n'épouse pas la femme de son frère. Henri VIII monte sur le trône à 17 ans après la mort de son père. Il est jeune, il aime les joutes, la chasse, la fauconnerie et même composer de la musique. Il n'a aucune envie de participer des heures durant au Conseil des ministres. Le cardinal Wolsey, un fils de boucher qui s'est élevé socialement grâce à son intelligence et à sa détermination, lui sert de conseiller personnel et d'intermédiaire avec les ministres. Le mariage d'Henri VIII et de Catherine d'Aragon est plutôt heureux. Seule ombre au tableau, le couple peine à avoir un enfant et c'est un vrai problème quand on doit assurer la pérennité d'une dynastie. Après 4 fausses couches, la reine donne enfin naissance en 1515 à un bébé bien vivant. C'est Marie qui régnera plus tard sous le nom de Marie la Sanglante, mais ça, c'est une autre histoire. Même si en Angleterre, les femmes ne sont pas exclues de la succession, c'est mieux d'avoir un garçon à une époque où l'égalité homme-femme est loin d'être envisagée. Henri VIII se lasse de ce couple qui met en péril sa dynastie. C'est dans ce contexte qu'il rencontre Anne Boleyn. Elle appartient à une noble famille dévorée par l'ambition. Pour le père d'Anne, Sir Thomas Boleyn, ses filles sont des pions au service de sa carrière. Il veut avoir sa place au plus près du roi. Et s'il faut littéralement prostituer ses filles pour y parvenir, ce n'est pas un problème. Anne, sa cadette, est loin d'être une oie blanche et elle partage les rêves de gloire de sa famille. Cette brune au teint ambré et aux grands yeux noirs n'est pas réputée très belle, mais elle a un charme, un aplomb et une intelligence qui subjuguent le roi. Il lui fait une longue cour avant de parvenir à en faire sa maîtresse. Et puis au fond, pourquoi il n'en ferait pas sa femme puisque Catherine d'Aragon enchaîne les fausses couches? À partir de 1527, le roi décide de faire annuler son mariage avec Catherine d'Aragon. Mais voilà, à la Renaissance, les choses ne sont pas si simples. Pour dissoudre une union royale, il faut l'accord du pape. Pendant qu'Henri VIII cherche des solutions pour couler en paix avec Anne Boleyn, il faut que je vous parle un peu de religion. Le pape est à la tête d'un royaume qui est une sorte de trait d'union symbolique entre Dieu et les autres royaumes. Le souverain pontife possède à ce titre un pouvoir spirituel sur les autres rois. Et tous les rois veulent être le champion du christianisme. Henri VIII ne fait pas exception. Au début de son règne, le pape lui donne même le titre honorifique de Defensor Fidei, le défenseur de la foi. Et ça, c'est quand même très chic à l'époque. Mais cette période est aussi troublée par un vent de réforme porté par le théologien Martin Luther. Cet homme pointe les dérives d'un clergé qui s'enrichit en vendant des bons du rachat. En d'autres termes, on peut racheter ses péchés par l'argent. C'est une sorte d'entrée coupe-fil payante au paradis. Pour Luther, cette vision du salut de l'âme est un scandale. Il prône une foi plus dépouillée, plus intime et favorisée par un clergé minimaliste et austère. C'est le début de la réforme protestante qui met en danger l'autorité des papes, mais aussi celle des souverains de droit divin. C'est dans ce marasme spirituel que Henri VIII demande au cardinal Wolsey de lui arranger auprès du pape l'annulation de son mariage avec Catherine d'Aragon. C'est ce que les historiens appellent la grande affaire du roi. Le pape Clément VII, encouragé par Charles Quint, empereur du Saint-Empire, roi des Espagnes et parent de Catherine d'Aragon, s'y oppose. Du coup, le principal argument du pape est qu'il refuse de revenir sur l'accord spécifique donné pour cette union par son prédécesseur. Évidemment, vous vous doutez bien que cette réponse ne va pas satisfaire Henri VIII. Il considère Wolsey comme responsable de ses contrariétés et commence à se méfier de lui. Il est même poussé à la défiance envers le prélat par le clan Boleyn qui veut le faire déchoir. Wolsey est trop influent. Si le pape refuse de plier, Henri VIII luttera contre lui par des moyens légaux. Il se tourne alors vers le juriste Thomas Cromwell pour trouver un moyen d'échapper à l'autorité du pape, et pour que ça marche, il faut y aller par étapes. D'abord, Henri VIII sollicite toutes les universités de théologie d'Europe et leur demande de plancher sur son cas. En octobre 1529, l'université de la Sorbonne considère que le mariage d'Henri VIII et de Catherine d'Aragon n'aurait pas dû être validé par le pape Jules II, car chez les chrétiens, aucune loi ne permet d'épouser la veuve de son frère, sauf si la femme est restée vierge, mais dans tous les cas, il vaut mieux l'éviter. D'autres universités, comme celle de Cambridge, aboutissent aux mêmes conclusions. Henri VIII réunit donc un nouveau parlement, le Reformation Parliament. En s'appuyant sur les nombreuses chartes, parfois très anciennes, relatives au fonctionnement du royaume, le parlement établit selon un vieil adage que le roi est empereur en son royaume. En d'autres termes, le pape n'a pas vocation à se mêler des affaires de l'Angleterre. 2 ans plus tard, en 1531, le pape Clément VII interdit aux universités et aux magistrats de donner leur avis sur des questions qui relèvent de son autorité. Autrement dit, c'est la réponse du berger à la bergère. Dans l'intervalle, Catherine d'Aragon est humiliée. Elle passe avec une dignité surprenante devant des commissions qui voudraient lui faire dire qu'elle n'était plus vierge quand elle a épousé Henri VIII. L'Espagnole s'en défend. Elle était très jeune quand elle s'est mariée avec Arthur, et son mari est mort quelques mois après leurs noces. Elle était donc bien vierge quand elle a épousé Henri. Fatigué par ses tergiversations, le roi anglais décide d'annuler seul son mariage avec Catherine d'Aragon en 1532. L'année suivante, il épouse Anne Boleyn, qui devient officiellement la reine d'Angleterre. C'est le grand triomphe de la famille Boleyn qui, dans l'intervalle, a fait tomber le cardinal Wolsey en disgrâce. Le plus proche conseiller du roi est mort reclus en 1530 et laisse la place libre au clan Boleyn. Mais son ami, le juriste Thomas Cromwell, lui aussi issu du monde de l'artisanat et ayant échappé à sa condition sociale par son travail, prépare déjà la revanche. Grâce à son action dans la grande affaire du roi, il est devenu très proche d'Henri VIII. Henri VIII espère avoir un fils d'Anne Boleyn. Mais elle accouche d'une fille 9 mois après son mariage. C'est une petite rousse qui deviendra la grande, la très grande Élisabeth Ière, mais on y reviendra dans la suite de cette saga anglaise. Après cette naissance, La souveraine enchaîne les fausses couches. Henri VIII est déçu et puis il ne supporte plus le caractère trop fort de sa femme. Il bave déjà d'envie sur la tendre Jane Seymour. Et comme les Boleyn dans leur temps, le clan Seymour est prêt à tout pour s'approcher au plus près du pouvoir. Mais ce n'est pas parce qu'Henri VIII flirte avec Jane qu'il n'achève pas ses réformes religieuses. En méprisant l'autorité du pape, il a rompu avec Rome. Aucun souverain européen n'avait jamais osé faire une chose pareille. Ce coup d'éclat lui permet de réformer la spiritualité du royaume et de s'imposer comme un chef religieux. On peut dire qu'il ne manquait pas d'audace. À partir de 1534, c'est Henri VIII qui nomme les évêques dans son royaume et plus le pape. Ça veut concrètement dire que les évêques d'Angleterre ont le roi comme chef et non plus le souverain pontife. Cette nouvelle réalité politico-spirituelle est définitivement validée en 1535 dans l'acte de suprématie qui reconnaît le souverain d'Angleterre comme l'unique chef suprême de l'Église anglicane. Cette même année, Henri VIII réfléchit déjà à un moyen de quitter sa deuxième reine dont il s'est lassé et qui ne lui a donné qu'une fille. En 1536, un accident précipite sa décision. Henri VIII fait une chute de cheval pendant une joute. Il a une jambe très abîmée et il perd connaissance pendant quelques heures. L'inquiétude ressentie par Anne Boleyn aurait déclenché une nouvelle fausse couche. Et cette fois, c'était un garçon. Henri VIII décide alors de se débarrasser d'elle. Avec l'aide de Cromwell, Henri VIII fait accuser sa femme de 5 adultères et même d'inceste avec son propre frère. Henri VIII ne veut peut-être pas la mort de sa femme, mais Cromwell établit un dossier si scandaleux qu'il est sûr d'obtenir sa condamnation. La reine passe devant un jury composé d'hommes à la botte de son mari. Parmi eux, il y a son propre père, Sir Thomas Boleyn. Il ne fera rien pour sauver sa fille afin de conserver sa position influente auprès du roi. Comme Cromwell l'avait prévu, il faut dire qu'il a lui-même trouvé des témoins à charge, Anne Boleyn est condamnée à mort. Ses amants présumés finissent eux aussi la tête sur le billot, y compris son propre frère. Le camp Boleyn vient d'être défait par Cromwell. 2 jours plus tard, le 19 mai 1536, la reine déchue offre son cou gracile au bourreau. Sa tête est tranchée à l'épée. C'est un privilège réservé à la haute noblesse. Comme vous pouvez le constater, on ne peut pas faire d'Anne Boleyn l'artisan de l'Église anglicane. Mais sa passion politique pour le roi a facilité la rupture d'Henri VIII avec le pape. La réforme de l'Église anglicane, inspirée à la fois par le catholicisme et le protestantisme, a servi sa propre politique de renforcement de ses pouvoirs personnels. Henri VIII épouse Jane Seymour quelques jours après la mort d'Anne Boleyn. Sa troisième reine meurt des suites de ses couches après lui avoir donné un fils, le futur Édouard VI d'Angleterre. Henri VIII épouse ensuite, pour des raisons politiques, Anne de Clèves, mais il s'en sépare vite parce qu'il ne la trouve pas à son goût. Ensuite vient Catherine Howard. Elle sera décapitée, elle aussi, pour adultère et trahison. La dernière épouse d'Henri VIII est Catherine Parr. Elle est sage et intelligente. Le souverain meurt en 1547 avant d'avoir eu envie de la répudier ou de la tuer. Après son décès, Catherine Parr obtient la garde de la jeune princesse Élisabeth. C'est peut-être un peu elle qui lui a transmis l'idée qu'une femme peut devenir une bonne politicienne. C'est la fin de ce récit consacré à Henri VIII, à ses femmes et à la fondation de l'Église anglicane dont Charles III est toujours le gouverneur suprême. C'est l'héritage de son lointain aïeul. Dans le prochain épisode de cette saga anglaise, je reviendrai sur un duel de reines, celui qui a opposé la fille d'Henri VIII, Élisabeth Ière, à sa cousine Marie Stuart. À bientôt sur votre plateforme d'écoute préférée.